Nous allons parler de l'Église selon saint Paul, cet apôtre infatigable et ce grand inspiré de l'Esprit-Saint. On ne peut choisir meilleur guide, je pense, à notre introduction à la vie ecclésiale, car saint Paul est à la fois un homme d'action, comme vous le savez, un fondateur de communauté, c'est-à-dire quelqu'un de très concret. Il a à la fois le sens du collectif, de l'ensemble, et le sens des personnes, de chaque détail. Et donc il joint cette antinomie collectif, individuel ou personnel. Et aussi, et surtout, je dirais, c'est un grand mystique et un théologien. Pour moi, je pense que c'est vraiment le plus grand théologien de l'histoire de l'Église. Je vous conseille, je suppose que vous n'attendez pas ce conseil pour l'avoir commencé, mais de lire et de relire saint Paul, qui parfois a mauvaise réputation parce qu'on dit soit il est misogyne, soit il est compliqué, soit il a un langage un peu trop judaïsant, enfin tout ce qu'on veut, mais je trouve que saint Paul est une nourriture spirituelle exceptionnelle. Moi, depuis des années, je lis et relis saint Paul, et chaque fois je découvre des perles et des choses qui m'ouvrent vraiment l'intelligence et le cœur. J'espère que donc ces quelques fleurs que je vais cueillir dans le grand jardin qu'a semé saint Paul vont pouvoir alimenter nos échanges de cet après-midi et notre vie spirituelle tout court. J'ai groupé ces fleurs ou ces briques ou ces pierres en six réalités essentielles. La première réalité essentielle quand on parle de l'Église, et je crois que c'est le fondement de tout, je l'ai appelé dans les feuilles la pierre angulaire. Et comme vous le savez, la pierre angulaire, il a un nom, c'est le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Je dirais pour commencer que la paroisse et l'Église dans son ensemble n'a rien d'un club de pétanque ou d'un cercle de philatélistes, c'est-à-dire d'un groupement purement humain où on se regroupe par affinité ou pour partager une passion ensemble, avec de manière sympathique, gentille, en organisant les choses le mieux du monde, ou tromper sa solitude en retrouvant des bons copains. Si on a cette vision-là de l'Église, c'est largement, comme vous le savez bien, insuffisant. Nous sommes largement en dessous du sujet. L'Église, nous dit saint Paul, et c'est lui qui, le premier, a mis le doigt sur cette réalité essentielle, l'Église est le corps même du Christ, pas moins. Et nous sommes les membres de cet organisme vivant. Ce matin, on a fait allusion déjà à l'Église dans son... On parlait des cellules eucharistiques vivantes, et c'est exactement de ça qu'il s'agit. L'Église est un corps vivant, et un corps qui à la fois nous contient, nous sommes les membres du corps, et nous dépasse infiniment, parce qu'elle est le corps du Christ. Parmi de très nombreuses citations de saint Paul, « Vous êtes le corps du Christ, chacun en est membre », dans Corinthiens 1. Tous, nous sommes un seul corps en Christ, étant membres les uns des autres. Cela signifie très concrètement que l'on ne peut construire le corps de l'Église dans son ensemble et dans ses parties, c'est-à-dire les communautés paroissiales, l'Église locale, selon des vues et des méthodes purement humaines, que ce soit l'argent, les relations, la gentillesse, la bonne volonté, l'esprit d'organisation, etc., des idées originales. L'Église n'est pas du tout fondée là-dessus. Elle ne peut être fondée que sur la personne du Christ, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous, vrai Dieu et vrai homme. En d'autres termes, il est essentiel de ne jamais perdre de vue que l'Église n'est pas, comme on le pense parfois, vue de l'extérieur, une institution. Et vous savez à quel point l'institution a mauvaise réputation. On dit « Ah, l'Église, institution, quelle horreur !» On a des sentiments plus que mitigés, plus que réservés vis-à-vis de cette institution qui paraît vieillotte, poussiéreuse, dépassée. Mais il faut surtout et toujours garder conscience que l'Église est un organisme divino-humain. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, qu'elle nous contient, nous en sommes membres, et elle nous dépasse. Et quand je dis organisme divino-humain, cela veut dire que dans l'Église circule une double vie, la vie divine et notre vie humaine, et que ces vies divines et humaines se rencontrent, s'interpénètrent, comme dans le Dieu-homme, notre Seigneur Jésus. Je prends ici une citation de saint Paul de 1 Corinthiens, que chacun prenne garde, dit-il, à la manière dont il bâtit l'Église. Le fondement, en effet, nul ne peut en poser d'autre que celui qui s'y trouve déjà, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et, dit-il aux Colossiens, vous êtes enracinés, construits en lui. Et comme je le disais il y a un instant, l'Église est souvent perçue de l'extérieur comme une institution poussiéreuse, un peu embêtante, un peu pénible et tout ce qu'on voudra, alors qu'elle est en réalité un lieu mystérieux, un lieu unique de sanctification et d'union de l'homme et de Dieu, des deux natures divines et humaines. Ce mystère est grand, dit saint Paul. Je l'entends du Christ et de l'Église. Alors si en vous et nous, ça m'arrive de me dire, oh, l'Église, c'est parfois lourd, ça semble un peu, oui, lourd, je ne trouve pas d'autres mots, et même parfois, franchement, quand j'ai une vue extérieure des choses, je ne perçois plus cette réalité essentielle, centrale, qui est ce courant, cette énergie qui passe dans l'Église et qui nous vient de la Divine Trinité. Et saint Paul nous rappelle donc que l'Église est avant tout un mystère, et non pas une institution, mais un mystère. Imaginez un instant une conception, c'est facile à imaginer d'ailleurs, une conception étriquée de l'Église, qui est souvent celle qui circule non seulement dans le monde extérieur, mais chez nous chrétiens. Eh bien, à cette conception étriquée de l'Église, comparons une phrase de saint Paul, qui dit, et c'est une phrase que j'ai trouvée dans l'Épître aux Éphésiens, ce n'est pas la peine de la commenter, elle parle d'elle-même, vous allez voir. « Vous êtes, écrit-il aux Éphésiens, devenus concitoyens des saints et la maison de Dieu. » Vous êtes devenus la maison de Dieu, bâtie sur la fondation des apôtres et des prophètes, ayant le Christ Jésus lui-même pour pierre angulaire. En lui, tout l'édifice grandit pour former un sanctuaire saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour former ensemble une demeure de Dieu dans l'Esprit. Voilà ce qu'est l'Église. Alors ce texte, on ne peut le percevoir d'un seul coup au départ. Relisez-le chez vous, méditez-le, contemplez-le. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement nourrissant qui place, je dirais, pas la barre trop haut, mais qui la place à la hauteur de l'œuvre du Christ parmi nous. Cela signifie en conclusion que nous ne pouvons participer utilement à la construction de l'Église ou d'une communauté locale que si nous sommes réellement enracinés dans le Christ. C'est-à-dire si nous le portons en nous comme un être vivant, non pas comme une simple référence ou comme un nom, puisque nous portons, nous chrétiens, le nom du Christ, mais si nous cultivons en nous sa présence vivante, et aussi si nous agissons en son nom. Saint Paul écrit aux Colossiens toujours, « Quoi que vous fassiez, en œuvre ou en parole, faites tout au nom du Christ Jésus. » Quoi que vous fassiez, faites tout pour le Seigneur et non pour les hommes. Soyez au service du Seigneur Christ. Voilà la première orientation fondamentale donnée à l'Église par saint Paul. Et ce n'est pas saint Paul qui l'invente, je pense que c'est la réalité profonde de l'Église que saint Paul a le génie, je dirais, ou l'inspiration de mettre en valeur. Deuxième aspect de l'Église, tout aussi importante, elle est un lieu privilégié où souffle le Saint-Esprit. On ne peut se passer de la présence et de l'action vivifiante de l'Esprit-Saint. Il nous est impossible, je dis bien impossible, de bâtir l'Église, ni de progresser nous-mêmes, sans l'aide constante et l'inspiration incessante du Saint-Esprit. Saint Irénée disait « Là où est l'Église, là est l'Esprit ». Où est l'Esprit, là est l'Église. Et vous connaissez cette formule célèbre des conciles œcuméniques, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Nous travaillons donc toujours en synergie avec l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, ce n'est pas la peine d'avancer. S'il n'est pas là, par exemple, s'il n'est pas là aujourd'hui, Dieu sait s'il est là, mais on vient de l'invoquer, je suis sûr qu'il est parmi nous. Eh bien, nous ne pouvons rien faire. Enfin, oui, on peut faire des tas de choses sur le plan purement humain, mais sur le plan ecclésial, spirituel, absolument rien. Saint Paul dit, par exemple, j'ai glané quelques phrases, mais il y en a des tas d'autres. « Laissez-vous mener par l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. N'attristez pas l'Esprit. Renouvelez votre intelligence par l'esprit. Transfigurez-vous par le renouvellement de l'esprit. Et par ailleurs, il dit que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons même pas connaître le Christ en sa réalité divino-humaine. Nous pouvons connaître, oui, peut-être Jésus de Nazareth à la façon des historiens, mais le Christ, Dieu et homme, et encore, oui, Dieu et homme, nous ne pouvons le connaître sans l'Esprit Saint. Et nous ne pouvons surtout le reconnaître comme Dieu et Sauveur. Il écrit dans la première lettre aux Corinthiens, « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit Saint. » Ou encore dans l'Épître aux Romains, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas comment prier. » Nous ne savons pas, pardon, comment prier, oui, comme il convient. « Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements ineffables. » Rappelons aussi cette autre réalité essentielle liée à l'Esprit Saint sur laquelle nous reviendrons, c'est que c'est l'Esprit qui suscite en nous des charismes afin d'édifier le corps ecclésial. Voilà donc les deux, je dirais, poumons essentiels de cet organisme divino-humain dont je vous parlais au départ. D'un côté, la présence vivante du Christ en nous, et de l'autre, l'inspiration incessante de l'Esprit Saint. Et sans ces deux poumons, nous ne pouvons respirer dans l'Église. L'Église ne peut respirer et vivre. Et ces deux mains du Père, comme nous dit saint Irénée, le Christ et l'Esprit Saint, nous conduisent justement vers le Père et vers la vie divine. Et j'ai noté une phrase de saint Siméon, le nouveau théologien. J'ai entendu qu'il y avait une paroisse de saint Siméon, le nouveau théologien, qui se créait, non?
Non.
C'est
non.
Pas ça qui,
c'est
qui
l'école
a dit.
De théologie de, ah, oui. L'Église celte.
Vous connaissez certainement saint Siméon, le nouveau théologien, dont je vous recommande aussi la fréquentation. C'est extraordinaire. C'est vraiment un homme pénétré des énergies divines et de la présence de Dieu en lui. Et saint Siméon nous dit que, de manière imagée, que la porte, c'est le Fils, la clé de la porte, c'est l'Esprit, et la maison, c'est le Père. Et n'oublions pas non plus que, et c'est très important aussi, que la vie en Église est à l'image de la Sainte Trinité, c'est-à-dire l'unité dans la diversité, dans une danse d'amour que les pères grecs appellent d'un mot qui a l'air barbare, mais que je vais vous expliciter parce que c'est un très beau mot, c'est la périchorèse. Et périchorèse, ça vient de choréa, qui veut dire la danse.
La danse en rond.
La danse en rond. Et donc cet amour trinitaire est une danse, une ronde, que nous sommes appelés à danser aussi dans l'Église, à l'image de la Divine Trinité, à la fois dans l'unité de notre nature rénovée par le Christ et dans la diversité de nos personnes suscitées, inspirées par l'Esprit Saint. Troisième aspect fondamental, la tradition. Vous savez tous qu'on n'édifie pas une paroisse sur des discours philosophiques ou des échanges d'idées ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur de la simple bonne volonté. Mais on ne peut l'édifier que sur une tradition, un fondement solide. Et cette tradition de l'Église, elle est elle aussi inspirée par l'Esprit Saint. Saint Paul a beaucoup de passages, je vous en ai cité quelques-uns, je n'en reprendrai que deux ou trois ici. « Que nul, écrit-il aux Colossiens, ne vous prenne au piège de la philosophie et des élucubrations futiles selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde et non selon le Christ. » Ou encore aux Corinthiens, « Ma parole et mon discours n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais c'était une manifestation de l'Esprit et de sa puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous parlons non avec des discours appris de la sagesse humaine, mais avec des mots qu'enseigne l'Esprit. » Ou encore aux Corinthiens, toujours, mais dans la première lettre, « La connaissance, au sens humain du terme, est source d'orgueil, mais l'amour construit. » Saint Paul souligne ici l'importance vitale de la transmission dans l'Église. Et la transmission de quoi? En fait, de ce qui a été expérimenté et éprouvé par les générations qui nous ont précédés, les apôtres, les pères, et qui a été expérimenté comme une nourriture spirituelle, car c'est de cela qu'il s'agit. La nourriture spirituelle, et qui prend différents aspects, comme vous le savez, les Écritures saintes, ou les écrits des pères de l'Église, les sacrements, la liturgie, les offices, l'enseignement théologique, la prière, que ce soit sous forme collective, individuelle, que ce soit la prière chantée, la prière silencieuse. Et donc il s'agit de transmettre à l'être humain que nous sommes tous une nourriture qui nous nourrisse corps, âme, esprit. Et cette nourriture, elle est véhiculée, transmise par cette tradition que nous avons à notre tour, je dirais, le privilège, la joie et aussi sans doute le devoir de transmettre comme un relais à ceux qui nous suivent et ceux qui nous accompagnent. Il y a deux aspects fondamentaux dans la tradition de l'Église, et je pense qu'il est bon de le souligner. Le premier aspect, c'est un aspect mémoire, conservation, de ce qui a été mis en place par nos prédécesseurs. Que ce soit, comme je viens de vous le dire, sur les plans liturgiques, théologiques, spirituels, etc. Mais deuxième aspect tout aussi essentiel de la tradition, c'est le souffle, l'inspiration, c'est-à-dire le jaillissement, le renouveau, la nouveauté. Et Saint Grégoire de Nice, tu y faisais allusion tout à l'heure, en disant que c'est Maxime et Anne-Marie qui t'avaient dit « toujours travailler, retravailler ». Donc nous partons de ce que nous avons reçu, mais nous le retravaillons, et nous l'intégrons, et nous le changeons petit à petit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Saint Grégoire de Nice a une très belle formule à propos de la tradition. Il dit « on se souvient de ce qui vient ». Je livre ça à votre contemplation, je trouve ça magnifique. Et Paul Evdokimov commente un peu cette formule en disant « la tradition est un accord avec le futur que l'on trouve dans le passé ». Ça, c'est vraiment des phrases, je trouve, qui peuvent alimenter notre...
Oui, c'est une expression absolument quasiment parfaite, oui. Incompréhensible, j'allais dire, aux gens qui n'ont pas expérimenté la vie dans l'Église.
Tout à fait.
Ça peut paraître complètement absurde, oui. Dans la vie normale.
Et donc, un aspect très important aussi, c'est le troisième par rapport à d'abord le Christ, l'Esprit-Saint, la tradition, c'est que dans chacune de nos paroisses, communautés locales ou cellules vivantes eucharistiques, nous soyons ancrés dans cette tradition, c'est-à-dire que nous connaissions, nous ayons intégré tout ce qui nous précède, mais nous soyons aussi créatifs dans l'inspiration du Saint-Esprit. Quatrième aspect important, dans l'Église, par notre union au Christ ressuscité et dans le souffle de l'Esprit-Saint, nous devenons, nous dit saint Paul, de nouvelles créatures. Et beaucoup de pères, saint Paul est le premier à le faire, je crois, vont comparer l'Église à une nouvelle création. Si vous vous rappelez, la seconde apparition du Christ dans le cénacle où sont réunis les apôtres, à un moment donné, il va souffler sur eux en disant « recevez le Saint-Esprit » et il va les envoyer en mission. Ce qui nous montre que le souffle de l'Esprit donné par le Christ à ce moment-là est lié à la création de l'Église, à l'envoi des apôtres. Et ça nous montre aussi, les mots qui sont employés dans le texte à ce moment-là font très clairement allusion à la première création, c'est-à-dire dans le deuxième chapitre, si je me souviens bien, de la Genèse, où on dit que Dieu souffle sur l'homme qu'il vient de malaxer, de créer à partir, et il en fait une âme vivante. Et le souffle du Christ, qui est déjà le souffle de l'Esprit-Saint, puisqu'il dit « recevez l'Esprit-Saint et allez dans le monde entier », il les envoie, eh bien c'est réellement, disent les pères, une nouvelle création. Et donc l'Église qui démarre à ce moment-là est une nouvelle création qui remplace la création vieille, malade, que le Christ vient de rénover par sa mort et sa résurrection. Et donc nous sommes, dit saint Paul, et il insiste beaucoup là-dessus, de nouvelles créatures. Ça ne se voit pas toujours nécessairement, mais nous le sommes ontologiquement. Si nous sommes unis au Christ et inspirés par l'Esprit-Saint, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et vous connaissez toutes ces comparaisons. Ce passage si important, dit saint Paul, du vieil homme à l'homme nouveau, ou bien de l'homme charnel ou psychique à l'homme spirituel. Et c'est extrêmement important dans l'Église. Nous sommes dans l'Église pour cela, pas pour autre chose. Même si on peut avoir des sympathies, que c'est agréable de se retrouver. Mais en fait, Pourquoi sommes-nous dans l'Église? C'est justement pour naître à nouveau, comme dit le Christ à Nicodème dans le troisième chapitre de Saint Jean. Il s'agit donc d'une nouvelle naissance, d'une transformation réelle, de l'ancienne à la nouvelle créature. C'est vraiment fondamental, c'est le but même de la vie spirituelle et donc de notre vie en Église. Je cite quelques extraits de Saint Paul à ce propos-là. Premier extrait dans la deuxième lettre aux Corinthiens. « Oui, le Christ est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien s'en est allé, une chose nouvelle est apparue. » Dans Galates, ce qui compte, c'est la créature nouvelle. Dans Colossiens, vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses pratiques, et vous avez revêtu l'homme nouveau qui progresse vers la connaissance et vers l'image de celui qui l'a créé. Et encore, cette belle citation de 2 Corinthiens, même si notre homme extérieur se détériore, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et je ne sais pas si vous avez, je ne sais plus dans quel livre ou dans quel passage Monseigneur Jean dit qu'au fond nous allons vers la jeunesse. Notre corps se détériore, nous allons vers le vieillissement, la dégradation, mais notre être intérieur se renouvelle dans la vie spirituelle. Et donc il y a un mouvement inverse dans le monde invisible de celui qui est observable dans le monde visible. C'est la même idée du passage à la nouvelle créature. Et donc on peut, et je crois qu'il ne faut jamais perdre cela de vue parce que c'est vraiment très important, c'est que la paroisse ou l'Église est réellement un creuset où notre humanité est transformée en divino-humanité et où nous sommes appelés à faire donc nos premiers pas vers la déification. Et nous sommes appelés dans l'Église à la fois tous ensemble, c'est-à-dire sur le plan collectif comme nous aujourd'hui, et chacun de nous à titre personnel, à réaliser cette expérience d'une métamorphose, car c'est réellement d'une métamorphose qu'il s'agit ici. Et cette métamorphose de notre être ne peut se faire que dans la rencontre personnelle avec le Christ et dans l'Esprit Saint. Et quand le cœur de l'homme est touché par cette grâce, alors se réalise, je dirais, une étonnante alchimie, la transformation de notre être profond par l'action du Christ et de l'Esprit Saint qui travaillent en synergie. Et le lieu de cette métamorphose, c'est non seulement notre cœur individuel, qui est une sorte d'autel, notre cœur, mais c'est aussi l'Église, où nous construisons, comme je vous le rappelais, sur le fondement du Christ, ému par le souffle, poussé par le souffle de l'Esprit. En recevant, et ça c'est la théologie de Grégoire Palamas qui s'introduit, mais déjà de prédécesseurs, nous recevons dans l'Église des énergies divines, des énergies incréées. Et notamment, c'est tout un sujet, mais on ne le développera pas ici. Ça nous mènerait trop loin, on n'a pas le temps malheureusement. Notamment à travers les sacrements. Les sacrements, qu'est-ce que c'est si on pouvait le dire en deux mots? C'est un moyen matériel par lequel les énergies divines incréées passent en nous. Nous les recevons réellement. Et on a parlé par exemple du réalisme sacramentel des pères. Les sacrements n'ont rien de symbolique, c'est réellement une énergie divine qui passe à travers une matière, le pain, le vin, l'huile, l'eau, etc.
On peut l'expérimenter d'une façon concrète.
Oui, tout à fait.
Moi, je veux témoigner de ça. Oui. J'ai expérimenté le passage de l'énergie, la réception des énergies divines d'une façon tout à fait concrète. C'est vraiment...
D'ailleurs, pour en revenir à Saint Siméon, le nouveau théologien, il a beaucoup d'extraits sur le moment où il communie. Vous savez, il parle de la communion. D'ailleurs, il dit, surtout ne vous approchez pas de la communion inconsciemment, sans savoir vers quoi vous allez et qui vous allez recevoir. Et il parle beaucoup des larmes. Il pleure en recevant la communion tellement il est profondément bouleversé. Et quand il rentre dans sa cellule, il dit, je me regarde, pauvre homme que je suis, et je ne sais où mettre ces membres qui sont les miens et qui sont divinisés par la communion au corps et au sang du Christ. C'est comme s'il était irradié dans tout son être par le sacrement qu'il vient de recevoir. Je pense que c'est une conscience qui est rare En tout cas, moi, personnellement, je dois vous avouer, je ne l'ai pas souvent, mais ça peut nous arriver de prendre non, ça, cette conscience.
Il y a une prière qui disait, avant de, comme on dit, nous aussi la prière, il en a écrit une très très forte.
Ah oui, tu ne la connais plus comme ça.
Oui, je peux vous envier.
Oui, oui. Oui. Encore un homme à fréquenter, hein, Saint-Siméon, le nouveau théologien. Il y en a beaucoup. Alors, cinquième perspective, les fruits de l'esprit. Lorsque l'homme intérieur, l'homme nouveau, l'homme spirituel dont nous venons de parler, émerge, ce qui est, je vous le rappelle, à la fois le travail de l'Esprit Saint et notre travail personnel, notre ascèse, alors apparaissent les fruits de l'Esprit dont parle saint Paul, et notamment les vraies relations entre les hommes, entre nous, à l'image des relations trinitaires. Saint Paul énumère ces fruits qui sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit aussi « La volonté de Dieu, frère, c'est que vous viviez dans la sainteté. » Ou encore « Rendez grâce au Père de vous avoir rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière. » Voilà donc les fruits de l'Esprit. Et ici se pose la fameuse question de l'œuf et de la poule. Qui est premier? Est-ce l'œuf, est-ce la poule? Vous connaissez tous le fameux dilemme. On peut remonter loin comme ça. Mais on peut le transposer aussi dans notre vie ecclésiale. Qu'est-ce qui est premier? La sainteté qui produit des fruits ou le travail ascétique, la prière, l'exercice spirituel qui transforme l'être et produit la sainteté? Par quoi faut-il commencer? Vous vous doutez bien que c'est une fausse question, puisqu'il s'agit effectivement de deux forces qui travaillent ensemble, qui travaillent ensemble en nous à l'éclosion de cet homme nouveau. Comme nous avons deux jambes pour avancer, nous avons une synergie en nous qui nous aide à avancer. D'une part, l'action directe de la grâce, c'est-à-dire les énergies divines qui nous tombent dessus, que ce soit à travers les sacrements ou à n'importe quel moment. Ça peut nous tomber quand nous sommes dans la nature ou quand nous sommes en prière ou en silence ou dans une rencontre personnelle avec quelqu'un. Je suis certain que ça nous arrive tous et de manière régulière, la grâce nous tombe dessus, on ne sait pas pourquoi. Et d'autre part, il y a, parce qu'il ne faut pas bâiller au Saint-Esprit, comme je dirais, comme on pourrait bâiller aux corneilles, d'autre part, il y a le travail personnel qui est plus laborieux, plus discret, plus ingrat peut-être, plus caché, qui est un travail de transformation que nous aborderons à la fin de ce petit exposé. Il est donc évident qu'il ne faut pas attendre d'être devenu des créatures nouvelles pour se mettre en route et pour construire l'Église, parce que, comme vous le savez, peut-être qu'on pourrait attendre un certain temps. Ce serait aussi une vision peut-être un peu trop angélique, et comme vous le savez, qui veut faire l'ange fait la bête, ou trop passive. Non, il faut s'y mettre dès maintenant et ne pas attendre que l'Esprit Saint nous tombe dessus le jour où il le décidera et surtout où nous serons assez ouverts pour le recevoir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comme il est tout aussi évident, je dirais, plus fort, oui, comme il est tout aussi évident que si nous devenons des êtres spirituels, c'est-à-dire des hommes nouveaux au sens où saint Paul en a parlé, à ce moment-là, tout se met à couler de source. C'est Durkheim qui disait, je crois, « Une fleur ne fait pas d'effort pour sentir bon. » Eh bien, le parfum de sainteté, il émane de quelqu'un qui est en voie de sanctification malgré lui. C'est qu'il ne se rendra même pas compte. Et donc, il y a ces deux mouvements, de la grâce et du travail personnel. Alors, autre aspect qui est aussi important de souligner dans cette cinquième perspective, c'est que l'Esprit Saint suscite en nous des charismes, des dons, qui nous sont donnés, comme vous le savez, non pas pour nous mettre en valeur et satisfaire notre vanité, mais pour mettre au service de l'Église. Et voilà un terme très important, lâcher, c'est pas le terme charisme, bien sûr, mais le terme service. Car tous les dons qui nous sont donnés sont faits pour la construction de l'Église, pour bâtir ensemble comme des pierres vivantes, disait saint Pierre dans sa lettre. Nous sommes des pierres vivantes et nous édifions cet édifice de l'Église. Citations de saint Paul qui sont très connues, je vous en prends deux, mais il y en a des tas d'autres. À l'un, l'esprit donne un message de sagesse, à l'autre, de science. À un autre, le même esprit donne la foi, à un autre, des dons de guérison, à un autre, le pouvoir de faire des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, le don de parler en langue, et à un autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est le seul et même esprit qui le produit, distribuant à chacun ses dons selon sa volonté. Et dans l'Épître aux Romains, il dira, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que ces membres n'ont pas la même fonction, nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie? Qu'on l'exerce en accord avec la foi. L'un a-t-il le don du service? Qu'il serve. L'autre celui d'enseigner? Qu'il enseigne. Tel autre celui d'exhorter? Qu'il exhorte.
C'est intéressant, excuse-moi de t'interrompre, parce que souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas leur place, ils n'ont pas leur place dans l'Église, ou qu'on ne leur fait pas leur place. Et je pense que saint Paul, là, veut nous dire aussi, soyez attentifs à donner à celui qui a un don sa place véritable. Si on discerne quelque part un don d'enseigner, qu'on donne l'occasion à celui-là d'enseigner. Et ça, je pense, je parle d'abord pour moi, l'évêque, hein, qui est la décision, mais ça, c'est souvent négligé dans l'Église, et souvent la cause de malentendus et de perte d'énergie.
Tout à fait, et de déception aussi. Oui. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on donne à quelqu'un, ou bien il prend lui-même, une place qui n'est pas la sienne.
Oui.
Et c'est extrêmement vital dans l'Église de repérer chez chacun quel est le don ou quels sont les dons qu'il a et de les employer au service de l'Église. Et ces dons, ici, ce sont des dons, je dirais, relativement extraordinaires dont parle saint Paul, mais les dons, ils sont bien plus importants, bien plus multiples et plus diversifiés que cela. Par exemple, quelqu'un qui a un don d'organisation, il faut l'employer pour l'organisation dans une paroisse. Quelqu'un qui a le don d'écoute, il faut l'employer pour l'écoute. Quelqu'un qui a le don de chanter, il faut l'employer pour chanter. On voit parfois des chantres qui arrivent et qui ne savent pas chanter, mais qui disent « Ah, comme j'ai envie de chanter !» Mais leur place n'est pas dans le cœur, forcément. Et alors, un don très important aussi, il y a le don de la parole, mais il y a le don du silence. Parce que souvent, les personnes disent dans les paroisses « Mais moi, quel est mon don ?» Et je pense que si on prie l'Esprit-Saint et qu'on demande aussi à ses frères et sœurs qui nous entourent, on trouve rapidement son don. Et ce don, alors, doit être mis à sa juste place, c'est-à-dire la bonne brique au bon endroit. Voilà donc pour l'avant-dernier aspect, et le dernier aspect très concret aussi, peut-être plus concret, et nous arrivons ici, si vous voulez, entre guillemets, aux recettes de Tante Léa, ou plutôt de l'oncle Paul.
L'oncle Paul.
L'oncle Paul, oui.
D'accord.
C'est-à-dire au comportement concret que saint Paul conseille de prendre dans l'Église, de mettre en pratique ou d'expérimenter. C'est très important cette notion d'expérimenter quelque chose. Parce que vous allez voir, on dira, oh là là, c'est quelle liste impressionnante. Mais ce sont tous des conseils. À l'un convient tel conseil, à tel autre conseil. Ou à tel moment de votre vie, ou à tel jour de la semaine, tel conseil sera bon pour vous. Et un autre jour, tel autre conseil. Mais voilà, je vous les ai énumérés ici. Et je crois qu'on pourra les lire sans faire de commentaires particuliers.
C'est génial.
Et je dirais qu'il faut ces conseils, on peut les mettre en pratique avant, pendant et après. C'est-à-dire tout au long de notre chemin spirituel. Et ces conseils peuvent, comme je vous le disais il y a un instant, à la fois précéder l'action des personnes divines en nous, ça les fait venir. Et saint Paul, par exemple, on parle ici d'exercice volontaire. On s'exerce à ce qui va être lu ici. Et saint Paul comparera cette ascèse à la course, rappelez-vous, de l'athlète. Il dit, je suis comme un athlète qui court pour décrocher la couronne. Et il y a aussi d'autres, on pourrait prendre l'image d'une pâte qu'on malaxe. Et donc, tous ces petits conseils spirituels, qui ne sont pas si petits que ça d'ailleurs, vous allez voir, c'est comme le malaxage, on dit, c'est ça existe en français, le malaxage de la pâte, de notre pâte, pour l'assouplir. Ça peut donc précéder l'action des personnes divines, mais ça émane aussi spontanément des personnes transformées, comme je vous l'ai dit, et qui deviennent saintes par l'action de l'Esprit-Saint en eux. Voilà. Partons dans la lecture. Priez sans cesse, soyez assidus et vigilants, persévérez dans la prière, vigilants dans l'action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. J'ai mis très haute, mais c'est trop haute, hein, c'est une erreur de frappe. Une très trop haute opinion, mais ayez à votre sujet des sentiments modestes. Ne faites pas les fiers. Laissez-vous inspirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Soyez assez humble pour juger les autres supérieurs à vous-même. Cessons de nous juger les uns les autres. Menez une vie digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Usez de prévenance réciproque. Revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de grandeur d'âme. Je vous le disais au départ, saint Paul a non seulement une vision globale extraordinaire de l'Église, une vision mystique et profonde, mais aussi le sens du détail. Tous ces comportements qu'il disait, on sent que ça sort de l'observation et d'une longue expérience communautaire. Je continue. Montrez-vous bienveillants les uns pour les autres, compatissants, vous pardonnant mutuellement. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais celui des autres. Ne recherchez pas ce qui vous plaît. Que votre charité soit sans hypocrisie. Portez les fardeaux les uns des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il glorifié? Tous les membres se réjouissent avec lui. Affermissez les timides. Soutenez les faibles. Ou, autre traduction, ceux qui sont abattus. Soyez patients envers tous. Les forts doivent porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Ne faites rien qui soit une occasion de chute pour votre frère. Faites-vous les serviteurs les uns des autres. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ne rendez pas le mal pour le mal. S'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Que soit bannie toute amertume, hostilité, colère, cri et blasphème, ainsi que toute méchanceté. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Évitez les querelles de mots et les discours creux et profanes. Évitez les paroles ineptes et grossières ou bouffonnes. Qu'il n'y ait pas de querelles ou de divisions et de divisions entre vous. Ne vous enivrez pas de vin, car l'ivresse conduit à la débauche, mais enivrez-vous d'esprit. Vous ne l'avez pas, non? Je crois que ça sortait de la page 3 et je n'ai pas réussi à condenser. Non. Alors je me suis dit, ben, ça n'est rien, ils pourront continuer à s'enivrer. Alors, pour terminer, je vous rappelle que ceci n'a rien à voir avec la morale. Saint Paul ne place jamais ses conseils sur un plan moral. C'est quelque chose de bien plus profond. Il est question ici de la transformation de notre être intérieur. Et ces comportements ne sont pas des comportements moraux comme on a pu l'appliquer dans une dégénérescence, je dirais, du christianisme. Parce que vous savez que quand on perd l'ancrage théologique et la vraie spiritualité, nécessairement, on se rabat, je dirais, on tombe dans la morale. Et l'Église s'est finalement transformée dans beaucoup de lieux, et d'ailleurs, ça guette toute Église du monde. L'Église s'est transformée en un centre de morale, si je puis dire. Pas de morale laïque, mais de morale ecclésiale, parce qu'on avait perdu l'ancrage théologique. Mais quand on retrouve cet ancrage ontologique, la racine, voilà.
La source.
À ce moment-là, la morale, je dirais, coule de source, justement. Et je terminerai par dire que, en réalité, ce que nous décrit saint Paul ici, c'est le comportement de l'homme nouveau dont je vous parlais tout à l'heure. Si nous sommes transformés en Christ et par l'action de l'Esprit-Saint, nécessairement, ça ne peut pas passer inaperçu. Et cela doit se voir, si on peut dire. Et comme dit le Christ, la bouche parlera alors de l'abondance du cœur. Et le comportement extérieur de l'homme, traduira nécessairement, ce sera le reflet de son être intérieur. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous transmettre, que j'ai glané chez Saint Paul pour vous.